Amen. Merci mon frère. Bonjour à tout chacun. Est-ce bien utile de vous demander comment vous avez passé la semaine? Oui, on peut demander ça. Alors, ça a été? Grâce à Dieu, plus ou moins. D'accord. D'accord. Je voudrais en ce matin vous introduire dans un livre qui m'a beaucoup interpellé lors de ma conversion. À peine converti, je m'y suis plongé, à croire que quelqu'un m'y a poussé, et j'ai bu la tasse. J'ai bu la tasse parce que je n'ai pas compris. Il s'agit du livre d'Osée. Et quand j'ai lu ce livre à la première lecture, le livre d'Osée parle de mariage. Et je n'étais pas prêt encore à investir encore dans la souffrance. Comment ? Nous le verrons. Je n'étais pas prêt à réinvestir ma petite personne dans la douleur, mais j'étais prêt à faire la volonté de Dieu. Je vous invite à lire ce livre au premier chapitre du livre d'Osée, où nous allons pouvoir poser le fondement de la parole. Osée est après le livre de Daniel et avant le livre de Joël. D'accord ? C'est bon, tout le monde a trouvé ? Alors pour ceux qui ont des smartphones, il faut slider. D'accord ? Faisons la lecture. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Bééri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. » Car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui donna un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisréel. Car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je brisai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisréel. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lourourama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Et je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai plus par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lourourama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ammi, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Amen. Nous nous remettons à la grâce de Dieu afin qu'il ouvre notre entendement et notre compréhension pour entendre sa parole. À la première lecture, comme je l'ai dit, je n'ai pas compris. Je me suis dit que Dieu veut me faire entrer dans le mariage et je n'étais pas prêt. Mais après un certain moment, j'ai relu ce texte et je me suis dit, « Mais Seigneur, tu es grand. » M'effondrant à genoux, en pleurs devant mon Dieu, parce que j'ai compris que ce Dieu qui m'a appelé au salut est un Dieu d'amour, de compassion, de tendresse. J'ai compris que malgré mes défauts, malgré ma petitesse, malgré mon manque de et mon manque de, Dieu est toujours celui qui me prendra dans ses bras, qui me consolera, qui me relèvera et qui me fera avancer avec lui. Et cela, frères et sœurs, devant notre petitesse, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qui bouleverse une vie. Et nous devons saisir, frères et sœurs, cette grâce de Dieu, cette grâce miséricordieuse que Dieu veut nous donner. C'est à nous de la saisir. Le pasteur de cette église a l'habitude de dire, grâce bon Dieu qui a passé, pas quitté y passer. Et je voudrais en ce matin que tu saisisses ce message de vie que Dieu t'adresse. Dieu nous aime tant qu'il ne veut pas que nous nous perdions. Alors il va tout faire pour nous ramener à lui. Il va tout faire pour que nous le connaissions et que nous décisions à qui nous voulons appartenir. Et cette décision aujourd'hui va tracer dans l'éternité ta destinée. Soit tu es pour Dieu, soit tu es contre Dieu. Il n'y a pas, permets-moi de te le dire, je suis un peu bout de décoffrage ce matin. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. C'est comme dans une maison. Soit tu es dans la maison ou tu es hors de la maison. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois gens de sa maison. C'est-à-dire que tu puisses entrer dans sa maison, là-haut, dans son ciel de gloire. Quand tu vas passer ta petite vie ici sur terre, où Job qualifie cette vie comme éclair, comme une vapeur de fumée qui passe. Dieu veut t'accueillir là-haut, dans toute sa gloire. Ce message du livre d'Osée peut être vu comme une métaphore, comme comme une métaphore encore, un acte prophétique. Et beaucoup d'interprètes, beaucoup de théologiens se cherchent encore, certains disent cela ou d'autres pas, mais nous ne sommes pas là pour ça ce matin. Prenons, et c'est mon choix, je prends ce message comme prophétique, d'accord ? Comme un acte prophétique. Dans ce message, il y a trois notions symboliques que je voudrais faire sortir. Le message que le prophète Osée doit annoncer, il n'est pas facile. Dire à quelqu'un que tu pèches n'est pas facile. Mais il faut qu'il le dise. Et dans ce message, frères et sœurs, il y a une première notion qui apparaît, c'est celle du mariage. Mais vous avez lu ou entendu, comme moi-même, ce mariage est un peu disconvenant. Osée doit se marier avec une prostituée qui se nomme Gomer. Et dans cette symbolique de mariage, de la vie pratique d'Osée, dans ce qu'il doit vivre, c'est une symbolique de l'union de Dieu et de son peuple, qui contracte une alliance avec lui. Voilà, je me marie avec toi. Je veux que tu sois mon épouse et moi ton mari. Ainsi, nous cheminerons ensemble. Je vais t'aimer, tu vas m'aimer, mais je vais t'aimer beaucoup plus que toi, tu ne peux m'aimer. Parce que je suis Dieu. J'aurais aimé que Marie entende ça de la part de son épouse. Ou inversement. Le deuxième message, frères et sœurs, et son contenu, ben c'est le péché. Israël, malheureusement, a commis une infidélité à l'alliance, une trahison. Et ce péché se traduit de différentes manières. L'idolâtrie, ils ont été vers d'autres dieux, vers d'autres Baals, comme on dit. Ils se sont prostitués. Et de manière littérale, si, il est marqué prostitution, mais de manière réelle aussi, Israël, en ce temps-là, allait sur les hauts lieux et se prostituait avec ce qu'on appelait les saints, les Baals des autres dieux, et pratiquait la fornication. Frères et sœurs, nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous nous détournons facilement de ce qui nous a attirés, de ce qui nous a saisis. Parce que quelquefois, nous sommes lassés de la chose et on va voir ce que l'autre notion donne pour savoir si elle n'est pas mieux. Israël s'est détourné de son époux véritable, qui est Dieu, l'Éternel. Et que dit le prophète de manière particulière ? Il donne les conséquences de ce péché, les conséquences de ses comportements. les enfants de ce mariage, 3 enfants sont nés, n'est-ce pas? Et l'Éternel dit, voilà, la conséquence, c'est que les enfants de ce mariage, c'est-à-dire, il faut voir le peuple. Le peuple, les enfants issus de ce mariage, le peuple, eh bien, ils vont subir mes jugements. Et Dieu marque la chose en leur donnant des noms symboliques qui figurent ce jugement. Je ne sais pas comment tu t'appelles, j'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Gomer dans la salle. Car un jour, j'ai prêché sur Lazare. C'était un jour de Pentecôte, je crois. Non, pas Pentecôte. Enfin, voilà, où je signifiais la résurrection du Christ. Et dans ma prédication, j'ai dit, Lazare, sors! Et un frère assez âgé s'est levé. J'ai interpellé un ancien et il est venu me voir. Il m'a dit, oui, il s'appelle Lazare. J'ai dit, oh, personne ne s'appelle Gomer ici? On continue. Le premier nom donné à l'enfant, c'est Jisréel. Alors, il y a plusieurs composants à ce nom, d'accord? Et il est dit dans le texte d'Israël, ben, c'est un événement de jugement où le roi Jéhu a passé par l'épée la famille royale. Et il y avait aussi un autre roi qui était venu rendre visite. Jéhu l'a tué. Jisréel signifie le lieu où le sang a coulé. C'est un lieu qui existe véritablement. Mais dans sa symbolique, le sang a coulé. C'était un jugement. Et il y a aussi un autre sens qui est dispersé, ou plus précisément, il est au futur ici, Jisréel. Il dispersera. C'est-à-dire que Dieu va juger, mais en dispersant. Ou encore un autre sens est possible. Et cela se voit plutôt dans le chapitre 2. C'est semer. L'Éternel va semer. Alors vous voyez bien qu'il y a un jugement, Dieu va disperser, mais aussi il y a cette notion d'espoir qui s'attache toujours au jugement de Dieu. Je ne vais pas détruire à jamais, je vais laisser un petit lot, je vais encore donner espoir et je vais semer. Il y aura encore une autre moisson, il y aura encore des plants qui vont se lever et qui vont donner une récolte. Et nous voyons ici tout l'amour de Dieu dans ce recommencement qu'il propose de faire. Lo Ruhamah, c'est le nom du deuxième enfant. Lo marque la négation. Et Ruhamah, c'est le participe passé du verbe aimer avec tendresse. Chérir. Chérir avec compassion. Alors que notre Dieu est un Dieu compatissant, riche en bonté et lent à la colère, le peuple vraiment a agacé Dieu. Vous savez, c'est comme les parents où l'enfant agace, et puis les parents disent, « Timomai, actuellement, on a arrêté, et puis ça. » C'est exactement ce que l'Éternel dit. « Je cesse d'avoir compassion de toi. » Le troisième enfant s'appelle Lo-Ammi. Toujours cette négation, et « Ami » veut dire « peuple ». Mais vous agissez d'une manière tellement inconvenante, d'une manière que je ne souhaite pas. Vous ne m'obéissez pas, vous faites un peu ce que vous voulez. Alors, désolé, mais je déclare que vous n'êtes pas mon peuple. Voici le nom de ces 3 enfants qui caractérisent la situation du peuple, l'identité du peuple. Il y a encore un autre passage qui se trouve au chapitre 3, au verset 1er qui dit, mais voilà, va encore. On ne sait pas si c'est une répétition du chapitre 1 ou encore si c'est une autre épouse, on ne sait pas encore. Ce n'est pas là le propos, va encore et aime une femme, aime d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Va encore. Il y a cet aspect de répétition. Dieu ne se lasse pas. Il va et va et va encore. Et je voudrais te dire en ce matin, si tu vis, si tu as le souffle de vie, c'est que Dieu te fait grâce. Il t'a envoyé divers messagers, il t'a parlé, et pourtant tu n'as peut-être pas pris encore une réelle décision avec lui. Dieu fait grâce et il revient à la charge. Ne laisse pas cette occasion passer en ce matin. Il en est ici de l'image de Gomer, Et je ne la prends pas comme la fille qui est prostituée. Je prends Gomer comme la généralité de l'humanité. Quelquefois, nous les hommes, nous disons que femme pas bon. Mais si nous bien garder, en disant nous pas bon non plus, hein? Aucun n'est bon, ni l'homme ni la femme aux yeux de Dieu. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme est de nature pécamineuse, c'est-à-dire de nature pécheresse. Il a cette nature se penchant. Son parallélisme n'est pas droit. Même si bon Dieu est réglé par l'Église là, il qu'a penché. Non pas vers les bonnes choses, mais vers le péché. Prenez un enfant, élevez-le. Vous ne l'avez pas appris à faire des choses qui ne sont pas bonnes, il saura le faire tout seul. L'homme est de nature pécheresse et ce péché se manifeste de diverses manières. Corruption de l'amour. Le rejet du Seigneur pour ce qu'il est. On garde le nom, on veut se donner un aspect religieux, mais on rejette ce qui fait la force du salut dans le message de Dieu. Jésus-Christ, je n'en ai pas besoin. Je peux mener ma vie tout seul. Gardez-moi, moi j'ai 34 ans. Moi qu'à vivre, frère, moi. Moi pas besoin de Jésus ou là. Comme l'on dit chez nous, c'est plita petris. En matière de péché, le mensonge, le vol, la médisance, la convoitise, la corruption, la décadence morale. Il y a même aussi cette notion dans le livre d'Osée, cette corruption morale. Tout pour nous est bon. Tout pour nous est bien. Et attention, tu n'as pas le droit de me juger. D'accord ? Parce que ce que moi j'estime être bien, pour toi ce ne l'est pas, garde ton pour toi. Et moi, laisse-moi faire ma vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, le monde est en décadence et il y a de manière générale une instabilité chez l'être humain. Aujourd'hui, je veux, je t'aime, je suis prêt à décrocher la lune pour toi. Demain matin, tu ne m'as jamais rien apporté dans ma vie. Depuis que tu es entré dans ma vie, je ne trouve que le malheur. Il y a une forme de stabilité. On n'est pas accroché, on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Et on le dit chez nous, si l'on vend. Vous êtes martiniquais? Pas tous. L'humain est instable, il est changeant. Il ne sait pas ce qu'il veut. En quelque part, c'est une confusion et c'est une fusion de toute une espèce de mélange. Je veux, mais je ne veux pas, oui, non. Et devant Dieu, ça donne quoi? Devant Dieu, ça donne rien de bon. Simplement rien. Ou sinon, la réalité d'un cœur partagé. L'homme est partagé entre ses désirs, ses réussites et l'éternité. Parce que n'oublie pas, toi qui écoutes ce matin, Dieu a mis cette notion de l'éternité en toi. Ainsi est le cœur de l'homme, ainsi en est sa vie, à cause du péché. Le livre de Romains, au chapitre... Le livre de Romains, au chapitre 25, verset 12, il nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et tu me diras « Mais monsieur, je n'étais pas là, pourquoi je paye les conséquences de cela ? » Ce n'est pas juste. On pourrait épiloguer sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, hein, n'est-ce pas ? Mais pour Dieu, c'est juste. Et je suis désolé de te le dire, tu as en toi une traçabilité du péché, parce que les premiers parents ont péché. Et de ce fait, la cause de l'humanité est indéfendable. On pourra se trouver toute espèce d'excuses. Oui, mais Seigneur, tu comprends. Débrouille à pas péché. Tu comprends, Non, il n'y a pas d'excuse. Telles sont les conséquences du péché, frères et sœurs. La première, c'est une séparation d'avec Dieu. Quand les premiers êtres ont péché, alors Dieu les chassa du jardin d'Éden. Une séparation d'avec Dieu, donc tous sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de cette présence de vie. Et si tu n'es plus dans la vie, par équation très simple, et par opposition, si on n'est plus dans la vie, on est pleinement dans la mort. Une fois qu'on a été séparé d'avec Dieu, on est dans la mort. Et je voudrais te dire, mon ami, pour être au bénéfice de la vie, pour saisir la vie, pour vivre une vie, il faut saisir la promesse que Dieu fait. Ainsi donc, comme par une seule offense, c'est-à-dire le péché, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la mort de Christ à la croix, la justification donne la vie et s'étend à tous les hommes. Aujourd'hui, mon ami, l'acte est accompli. Jésus-Christ a donné sa vie afin que toi, tu puisses vivre. L'acte est accompli, la proposition est faite. L'homme a le pouvoir de saisir cette opportunité aujourd'hui de saisir la vie. Alors vous me direz, c'est facile, il suffit de la saisir. C'est facile, mais il faut faire avec une composante, celle de l'homme. Nous sommes ainsi faits. Dieu ne nous a pas fait des robots, il nous a laissé une pleine liberté. Vous l'avez vu? Alors, on l'a vu? Puis voilà. Je vous remercie. On continue? On continue. D'accord? On se calme. Et on continue. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Dieu doit composer aussi avec la nature de l'homme, il ne nous a pas fait des petits robots. Et l'homme a cette tendance à dire, non, je n'ai pas besoin de Dieu. Le salut, monsieur, que tu me proposes, c'est pour les faibles. C'est pour ceux qui n'ont pas de caractère. N'est-ce pas? Et on retourne dans le monde de la philosophie. La religion, c'est l'opium des peuples. Mais je voudrais te dire une chose, ce que Christ a fait à la croix n'est pas dans le domaine de la religion. C'est du domaine du salut, avec une application réelle dans la vraie vie. Dieu sait que le péché règne et Dieu veut te sauver. On n'est pas dans un élan fantasmagorique de pensée. Est-ce que Dieu, le Seigneur, existe? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non. On est dans la réalité de la vie. La vie que tu vis ici, un jour, elle va se terminer. Elle va se continuer là-haut. Il y a deux solutions. Soit tu es auprès de Dieu, ou soit tu es loin de Dieu. Quand j'étais jeune, je voulais être prêtre. Et cette religion, le catholicisme, a une notion bien définie de la perdition. Il te parle de l'enfer. Hein? La texte biblique parle du feu de la géhenne, de l'éloignement avec Dieu. Alors je vais prendre cette notion. Soit tu es avec Dieu dans sa félicité, dans son royaume, et tu es heureux à N plus X, ou soit tu es loin de Dieu et malheureux, dans une souffrance éternelle. Je te conseille de choisir la vie ce matin. Si on part dans les raisonnements humains, l'homme peut s'en sortir, mon frère. L'homme est résilient. Pourquoi aurait-il besoin de Dieu? Alors à partir de là, il faut envoyer peut-être un texte à Dieu, un SMS, un WhatsApp, je ne sais pas quoi, et lui dire, Seigneur, tu t'es trompé dans ton équation. L'homme peut se sortir de son péché. Il n'a pas besoin. Et tu as donné ton fils en vain Parce que l'homme peut se sauver lui-même. Mais Dieu, dans sa toute-puissance, sait que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Alors ainsi, il a donné un moyen de salut en Jésus-Christ de Nazareth. Et le problème qu'on a avec nous, les humains, nous sommes tellement comme nous sommes. Si tout prédicateur était qu'à annoncer, m'a qu'à proposer aux autres en salut à 1 500 €, en payable en 5 fois, tout le monde était avancé. Parce que tout le monde a besoin de montrer l'autre là qu'il n'y a 1 500 €. Alors, m'a qu'à venir. M'a qu'à montrer que m'a dit 1 500 €. Et comme c'est un salut gratuit, il n'y a rien à faire sinon que de l'accepter. Alors l'homme se dit, est-ce que ce n'est pas une arnaque? Et je voudrais te dire en ce matin que le message de l'Évangile n'est pas une arnaque. Le message de l'Évangile est authentique. Bien avant nous, des hommes se sont donnés à Dieu. Des hommes ont changé de vie. Ils sont sortis de la mort pour saisir la vie et vivre une vie pleinement en Dieu. Nous sommes bien souvent insouciants. Mon ami, je suis jeune, je n'ai qu'une vingtaine d'années. La cause de Jésus et la cause de la religion, je la verrai après. Mais après quand? Bon, quand j'aurai la quarantaine. À 40 ans, alors es-tu prêt à saisir le message de vie que Dieu veut te donner en son fils Jésus? Oh monsieur, vous savez, là je suis en pleine carrière et je n'ai encore pas le temps de saisir le message de votre Dieu. Alors, on se donne rendez-vous quand, monsieur? Oh, revenez dans 20 ans. Dans 20 ans, on revient et on dit, alors êtes-vous prêt à entendre le message de l'Évangile? Êtes-vous prêt à le saisir? Oh, vous savez, j'ai mené une belle vie. Vraiment, je n'ai pas eu besoin de Dieu. Ainsi est le monde qui repousse l'échéance du salut. Et je voudrais te dire en ce matin, ne repousse pas le salut que Dieu t'offre aujourd'hui. Je ne suis pas un prophète du malheur, hein, mais je veux te dire simplement ceci. On ne sait pas ce qui peut arriver dehors quand tu vas laisser cette église. D'accord? Je ne veux pas te mettre de pression, réfléchis. On ne veut pas de Dieu parce qu'on sait mener nos vies, on sait qu'on est nos itinéraires. On les trace assez souvent. Et bien souvent, mon frère, mon ami, on se tape la face, on se tape la tête contre nos panneaux. Ou encore comme des panneaux providentiels. Boum! Je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je ne sais pas, je me suis pris un truc là, je n'ai rien compris. Au lieu de s'arrêter et de réfléchir sur nos itinéraires, on se dit, courage Fernand, relève-toi et vas-y. On ne fait pas attention aux événements qui nous arrivent. On y va, on se relève et on avance. Je veux et j'aurai par tous les moyens. Mais dis-moi, n'as-tu jamais entendu cette phrase qui dit « Les conséquences produisent les causes produisent les mêmes effets ?» C'est ça ? Ou aux mêmes causes, les mêmes effets ? Ouais, merci ma sœur. Elle m'a libéré de poids. Fernand, comme tu veux, mais c'est la pensée là. Merci beaucoup. Et bien souvent, l'homme, on reprend le même itinéraire, on refait les mêmes erreurs, on se dit, non, je ne vais pas tomber dans le panneau. Boum, on tombe dans un autre panneau. Et on recommence de manière incessante. Mais tout cela, mon frère, ma sœur, Dieu le voit. Et Dieu voit que dans tous ses moyens, tu l'as exclu et que tu ne fais que par toi-même. Dans tout cela, Dieu voit, et c'est la vie de tout un chacun, nous sommes dans un labyrinthe, bien souvent. Quel que soit ce labyrinthe, professionnel, vie sentimentale, vie familiale, etc., nous sommes bien souvent dans des labyrinthes. Mais Dieu ne veut pas que nous nous perdions dans nos labyrinthes. Dieu veut nous montrer la route, le chemin pour en sortir. Dieu sait, mon frère, ma sœur, que quelquefois tu as été et tu es certainement dans un labyrinthe et que ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause des mauvais conseilleurs. On t'a conseillé de faire ça et ça t'a mené à ta perte. Aujourd'hui, tu es dans la peine. Mais Dieu le voit et Dieu le sait. Mais Dieu veut t'aider. Il veut t'en sortir. Il veut que tu t'en sortes. Dieu est celui qui veut et qui peut te montrer le chemin. Il sait tout. Il voit tout. Mais alors, en ce matin, est-ce que tu veux essayer le conseil de Dieu? Dans l'histoire de Gomer, il y a tout ça. Cette femme prise de la prostitution est mise à la limite. Je vais à l'opposé, dans une belle maison, dans un château. Elle n'est plus dans la rue en train de se prostituer. Elle est dans la maison d'un roi, d'un homme de bien. Mais Gomer repense à son passé et elle se dit, eh bien voilà, j'étais mieux avant. Et elle donne vie à ses pensées, à sa manière de penser. Elle se prend des panneaux et elle ira bientôt au désert. Alors, parce que la vie n'a pas été facile pour toi, tu es peut-être assis dans un rond-point ou alors au milieu de ton labyrinthe et tu attends. Mais je veux te dire, tu attends qui? Tu attends quoi? Quand quelqu'un a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il va manger. S'il pas ni manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à manger. Il va demander à un monde, tant pis s'il vous plaît, pour manger. D'accord. Mais quand on est dans un labyrinthe, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a essayé de chercher une sortie, vous avez remarqué que le labyrinthe n'a pas de toiture. Et je crois que dans nos vies, frères et sœurs, où il y a des labyrinthes, où il y a des déserts, il faut simplement lever les yeux vers le ciel. Parce que c'est de là, certainement, que viendra la solution. Et à force de taper dans des murs du labyrinthe ou dans des panneaux de nos vies, le Seigneur dit, eh bien, puisqu'elle ne veut pas entendre, puisqu'elle veut faire qu'à sa tête, alors moi, à partir de ce panneau, je vais tracer pour elle un chemin dans le désert. Ce n'est pas toi qui as voulu aller dans le désert, c'est le lieu de ta rencontre avec Dieu. Le désert, c'est le lieu où il n'y a pas de bruit, pas ni zouk, pas ni samba, pas ni rien. Pas ni MP3. C'est le lieu où, qui est rempli de dangers. C'est un lieu hostile. Il y a le soleil, il y a le sable, il y a les scorpions, il y a les serpents du désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Ce lieu de désert, c'est un lieu où automatiquement, de manière consciente, on cherche Dieu. Et le Seigneur le dit. Au verset 6 du chapitre 2, c'est pourquoi, voici, je veux l'enfermer son chemin par des épines et y élever un mur afin qu'elle ne me trouve plus ses sentiers. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert et là, je parlerai à son cœur. C'est quand il n'y a pas de bruit que tu entends l'autre parler et c'est dans le désert que Dieu veut te parler. Dieu prend cette formulation, parler à son cœur, et Jésus la reprendra plus tard dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, verset 28. Un homme, un scribe, un pharisien, lui demande, « Maître, quel est le plus grand des commandements ?» Et le Seigneur lui dit, « Le commandement commence par quoi ?» Qu'est-ce que tu as dit ?« Écoute Israël. » Le commandement commence par ça, « Écoute Israël. » Donc, il faut avoir cette attitude d'écoute, cette disposition de cœur pour entendre la suite du message. Écoute Israël. Et là, dans le désert, je suis sûr que Dieu veut te parler. Dans ce désert, dans ce lieu de silence, de solitude, où la faim est attisée, Dieu souhaite se révéler à toi. Car bien souvent, frères et sœurs, mon ami, il faut savoir se perdre pour se retrouver. Tant qu'on n'est pas passé par cette expérience, on ne peut pas savoir qui on est. Quand on est perdu et qu'on appelle au secours et que Dieu nous trouve, alors là, s'affiche toute la plénitude de l'amour de Dieu à notre égard. J'étais perdu, il m'a retrouvé. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que tu entres en communication avec lui. Et dans cette relation, alors, il te donnera ses plans, il te donnera des stratégies pour mener ta vie. Le livre d'Osée s'en prend aussi à une autre notion qui est très répandue sur nous, chez nous, l'illusion de la religion. Nous pas qu'à faire mon mal, nous pas qu'à mettre pitié en bas personne, nous pas qu'à y voir séancier, nous pas qu'à y voir qu'un boisé, nous pas qu'à... Hein? Mais qui ça à côté nous qu'a fait? Osée s'en prend à cette forme de religion, d'accord, à cette forme de principe, de notre manière de concevoir les choses, qui serait efficace et aurait une quelconque emprise sur Dieu. Et Osée déclare, non, on ne met pas Dieu dans des cases. On n'assujettit pas Dieu avec nos conceptions, notre manière de voir. On ne lui dit pas, Dieu, tu feras comme je veux. Non, ce n'est pas possible. Dieu agit à sa guise. Dieu agit comme il veut. C'est ton cœur que Dieu veut. C'est à toi d'en décider aujourd'hui, mais... Alors, je m'adresse maintenant à une deuxième partie de la population de cet auditoire qui m'écoute, cette partie qui a fait cette rencontre avec Dieu, pour être vraiment au cœur du sujet. Où tu as goûté comment le Seigneur est bon, comme Gomère. Vous savez, cet homme-là prend de la prostitution et lui met dans une situation plus que notable. Mais voilà, qu'est-ce que Gomère fait? Elle se dit, non, j'étais beaucoup plus heureuse avec mes amants. Hein? Et je veux revenir vers eux. Et Gomère emploie des stratèges, frères et sœurs. Et le texte me dit qu'elle se pare. Elle se pare de bijoux, de fards. Il y a une volonté quand même. Hein? Quand tu vois ton épouse partir de manière bien dressée. Chérie, où vas-tu? Je vais au marché. Au marché? Je referme la parenthèse. Dieu t'a sauvé, il t'a mis au large. Il t'a montré son infinie grandeur, tu avais faim, il t'a donné à manger. Tu avais soif, il t'a donné à boire. Mon frère, ma sœur, combien Dieu a pourvu à tous tes besoins. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toi, tu pourrais entrer en toi-même et te demander qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que je n'ai plus le même amour pour mon Dieu. Celui que je glorifiais, celui que j'exaltais, son amour envers lui s'est refroidi. Et aujourd'hui, je mène ma propre vie. Le livre de Romains, au chapitre 11, au verset 17, je ne vais pas afficher de peur d'avoir fait une erreur. Donc on va lire. C'est pas grave, mon frère, vas-y, non. Romains chapitre 11, verset 17 nous dit « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si trois qui est assis là ce matin, qui étaient un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, c'est-à-dire remplacé et rendu participant de la racine de la fève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens, ne te glorifie pas par rapport aux branches, mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, au contraire, c'est la racine qui te porte. » De manière générale, l'orgueil atteint souvent le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Et on oublie que c'est Dieu qui nous a donné la vie. On oublie que c'est Dieu qui nous donne le mouvement et l'être. On oublie que c'est Dieu qui nous donne à manger et à boire. Mon frère, ma sœur, même si tu travailles, c'est Dieu qui te donne à manger et à boire. Alors ne dis pas que c'est tes propres forces qui te le donnent. Ah oui, c'est pas bon Dieu qui a levé à 5h du matin. C'est où qui a levé? Mais tu vois, tu penses tellement fort que tu m'interromps dans mon message. Mais c'est quoi lever à 7 heures du matin? C'est que bon Dieu l'est ou lever à 7 heures du matin? Bon Dieu qui a fait grâce lever à 7 heures du matin. Hmm? Et s'il décide un jour que vous ne pas lever, vous ne pouvez pas lever. Donc c'est grâce bon Dieu. Et aujourd'hui, tu te dis, avec ce que tu as, avec ce que tu t'es procuré, je suis libre, le Seigneur m'a donné cette liberté, alors pourquoi vivre avec les contraintes? Mon âme, de quoi as-tu besoin? Ah oui, il y a ça qui ne va pas. Alors, je donne quittance à mes désirs. Et c'est ce que Gomer fait. Quand le texte dit, elle a recherché ses amants, c'est-à-dire qu'elle a suivi, elle les a suivis ou encore poursuivis. Et pour le faire, pour ne pas aller en haillons, quand tu vas voir celui que tu as connu avant, tu te fais belle. Anneaux, bijoux, ceci et cela, belle robe, sexy, bail comme ça. Tu te fais belle, comme ça, celui que tu as connu, qu'il te voit, il te dit, waouh, t'as pas changé, hein? Donc, tu te fais belle. D'accord. Et en hébreu, c'est simplement la convoitise. Je veux satisfaire mes désirs. Je veux satisfaire ce que je n'ai plus, ce que j'ai connu avant. Et on retombe, frères et sœurs, dans les convoitises du monde, les désirs de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et bien souvent, tu dis, mais c'est naturel, Seigneur, que je fasse ça. Ce sont des désirs humains. Je suis quelqu'un d'humain, je vis quand même. Il faut que je vive pleinement. As-tu déjà lu ce texte où le Seigneur personnifie une truie? Ce texte qui dit, c'est comme la truie qui s'est lavée, elle s'est nettoyée, elle s'est sanctifiée, mais qu'est-ce qu'elle a fait à un moment donné? Elle est retournée se vautrer dans la boue. Et on peut faire des relations avec plein d'autres textes. Le psaume 50 où l'Éternel dit à son peuple, mais mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que ton amour soit aussi froid envers moi, pour que tu sois aussi indifférente. Qu'est-ce que je t'ai fait? Alors certainement, ce matin, tu pourras dire au Seigneur, bon Dieu, pourquoi approcher moins vive? J'ai envie de m'éclater. J'ai envie de vivre, j'ai envie, Seigneur. Ma collègue qui n'est pas à toi, alors elle vit, Seigneur. Et moi, je ne vis pas. Mais ta collègue, elle est dans le monde. Or, toi, tu n'es pas du monde, tu es à Christ. Et s'il y a quelques restrictions pour la durée des temps que tu dois passer aujourd'hui, s'il faut vraiment que tu mordes ton oreiller, que tu mordes un drap, une serviette, parce que les désirs de ta chair sont trop forts, je te demande simplement, ma sœur, mon frère, mords. Mords ta main, mords ton œil, mords ce que tu veux, mais ne pêche pas contre Dieu. Ce sera de la rébellion. Nous, quand nous libres en Jésus, mais nous pas libres faire n'importe qui ça? Et remarque bien, les noms des enfants, ce sont les conséquences du péché. Alors nous disons, nous avons un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, d'amour, de bonté. Je veux te dire une chose, mon frère, ma sœur, Dieu ne change pas. Et quand Dieu condamne le péché, ce n'est pas parce qu'il est miséricordieux qu'il ne va pas te faire miséricorde, mais tu vas porter en quelque part le poids de ton péché. Il y a des conséquences au péché. Alors ceux que tu as connus, qui veulent te refaire la guerre à ton âme, dis à ces choses dehors. En tant que chrétien, nous n'avons pas compris que nous avons une position à avoir contre nos désirs à nous, surtout charnels. Les projets de Satan et les plans de Dieu. On doit se positionner et on doit dire, Satan, non, je ne veux pas faire ça. Quand la chair demande des satisfactions, quand la chair demande d'être assouvie, quand les pulsions viennent nous tirailler, nous ni un super congélateur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La chair là, elle est manifestée quoi, hein, les désirs. Tout le monde me comprend, il y a des enfants, il n'y a pas école du dimanche. J'essaie de parler de manière à ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes. Quand les désirs viennent, et qu'on se dit, non, je vais me donner, me ceci et cela. On peut soumettre ses désirs. Tu sais pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et quand tu te mets à genoux devant l'autel de la grâce de Dieu, Dieu entend tes lamentations et Dieu dit, « Mon fils, ma fille, j'ouvre mon congélateur. » Ou qu'a Freddy la même. Ou pas ni pièce désir, pièce différe. « Oh Seigneur, je suis froid. » Et voilà. D'accord ? C'est une image que je prends. Ok ? Merci. Bien souvent, quand on est à Christ, on se vante d'être l'égal de Dieu et on se dit, bon, je peux faire, je peux mener ma barque moi-même. Seigneur, tu m'as donné une bonne poussade. Je suis dans la descente et puis on y va. Mais on n'a pas vu l'arrière, là, dans le tournant. On n'a pas vu qu'il y a un mur. Et on se prend le mur. Parce qu'on a voulu mener notre barque tout seul. On se prend l'égal de Dieu et on décide qu'on est au même niveau que lui. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que la grâce de Dieu a un socle. Voici le livre de Romains. La grâce de Dieu a un socle, c'est l'indépendance au tronc. Si toi tu es une branche, entre la branche et la racine, il y a le tronc. D'accord ? Et le tronc est schématique, je le prends comme ça, c'est la personne de Christ. Dans tout ce que tu veux et de ce que tu dis, tu veux être retranché, tu veux ton indépendance à Dieu ? D'accord ? Dieu va pas, il va te parler, il va te dire, non, reste greffé à moi. Parce que tout temps où greffé, tout temps c'est v'là qu'à couler. Hein? C'est bien ça ou pas? D'accord. Mais dans la nature, on voit bien que quand on coupe une branche, elle ne pourrit pas, elle ne se dessèche pas tout de suite. Ça prend du temps. Alors certainement, mon frère, ma sœur, et je te le dis avec toute ma sympathie, certainement que peut-être que j'ai coupé, hein, mais comme vous faites toujours, ou qu'à penser que la vie Jésus qui a circulé en dedans, non. Non. Le constat se fera tôt ou tard, tu vas devenir une branche sèche. Et quand on est une branche sèche, qu'est-ce qu'on fait? Comme elle est, tu n'as rien, on la prend et on la met au feu. Ce matin, le Seigneur, je sais que ses paroles sont dures, je le sais, même pour moi. Qui doit les dire, elles sont dures. Aujourd'hui, le Seigneur te dit ce matin, tu as voulu prendre ton indépendance, tu t'es coupé de l'arbre qui te portait. Je peux faire quelque chose d'incroyablement grand. Je peux te regriffer à moi. Je peux te reprendre et te repositionner. C'est moi qui ai fait agriculture, c'est en greffe, tu crois qu'il y a ça? Ok, c'est possible de faire une greffe encore. C'est possible de revenir à Dieu. Dans Osée au chapitre 6, au verset 1, il est dit, « Revenons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Mais pour cela, il faut revenir à l'Éternel. Il faut une vraie repentance. « Seigneur, voilà, j'ai mal fait. Mais je veux revenir à toi aujourd'hui. » Et certainement que ta situation, ton désert, comme celle d'Homère, où Dieu l'a conduit dans le désert, ta situation est provoquée par Dieu. Dieu qui veut te ramener à lui, Dieu qui veut te dire, ah ben voilà, tu t'es séparé de moi et aujourd'hui tu es une branche morte. C'est une occasion pour Dieu de déployer sa miséricorde envers toi. Au lieu de te chasser comme il a fait pour Gomère, il te prend par la main, il te parle. Et il veut rétablir de nouveaux liens avec toi. Le chemin du retour passe obligatoirement par une repentance sincère. Les conséquences de ce retour à Dieu, je te fiancerai avec moi. Et cela est répété 3 fois, comme pour marquer son engagement, pour marquer son acte. Je vais te fiancer à moi, tu seras mon épouse, tu seras... je serai ton mari, tu ne vas plus m'appeler mon maître, mais tu vas m'appeler mon époux. Tu as vu le changement de situation? Alors peut-être que au quoi que tu es à l'évangile, ou tu es ni Jésus, ceci et cela, mais c'était mal pensé. Mais Jésus, je dis, allez qu'on est en vraie relation épille. Jésus, allez qu'on est en relation de fiancé à fiancé. Nos conceptions de Dieu ne sont pas Dieu en elles-mêmes. Et je voudrais te demander ceci. Est-ce que nos priorités ne sont pas faussées comme celles de Gomère, qui recherche sa propre satisfaction par les distractions du monde, par les désirs. Est-ce que vraiment nos priorités sont celles de Dieu? Osée nous rappelle que Dieu est fidèle, quels que soient nos parcours, quelle que soit l'erreur qu'on a pu faire, Dieu est fidèle encore pour nous rappeler, pour nous serrer dans ses bras d'amour, pour nous parler, pour nous relever, pour nous nettoyer, pour nous donner de nouveaux habits et pour qu'on reparte. Est-ce que tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour arrêter de te prendre des panneaux dans la vie, pour arrêter de tourner en rond dans tes labyrinthes? C'est la première question que je lance à une partie de cet auditoire. As-tu Jésus dans ta vie? Peut-être que ou en bel monde, ou honnête, ou intelligent, ou ceci, ou cela. Mais si vous pas ni Jésus, ça n'a pas qu'à se vivre à rien. La porte, c'est la fin même. Bon. Si vous n'y Jésus, même si vous l'aide, qu'on solex, la porte royaume à bon Dieu ouvert. Bon. Hein? Si vous n'avez pas une pièce capacité, et puis on est Jésus, on est toute capacité. Je peux tout par celui qui me fortifie. Monsieur, madame, il n'est pas trop tard d'accepter Jésus. C'est lui qui donne accès au royaume de son Père. Tu as une décision à prendre aujourd'hui, prends-la et le pasteur et les anciens vont prier pour toi après le culte. Va les voir. À Troyes qui a connu le Seigneur comme à l'image de Gomer, qui s'en est allé et qui a considéré que bon Dieu n'est pas assez bon, moi. Bon Dieu n'est pas assez bon, moi. Je vais chercher de l'autre côté. Dieu te propose de revenir à lui. Tes désirs, tes insatisfactions, où tu n'es pas heureuse, où tu n'es pas heureux, où tu veux faire comme le monde, où tu veux te vautrer dans la prostitution, dans les désirs charnels, dans tout ce que je pense. Dieu te dit, reviens à moi et je saurai te donner la maîtrise sur tout ça par mon Esprit Saint. Mon Esprit Saint, tu l'as attristé. Mais je voudrais le ressusciter, l'éveiller en toi afin qu'il puisse encore te diriger. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est l'appel d'un vrai retour, d'un cœur transformé, d'une relation confiante avec lui, d'une vie alignée sur sa justice et sa miséricorde. La Bible me dit que je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa prospérité mendier. Et ce matin, c'est un appel pour que tu retournes au Seigneur.